de manière à avoir cette colonne. Et la huitième qui était complètement à gauche, c'est une colonne pour expliquer quelles sont les sept dimensions de chaque rubrique. Alors, le grand principe de ce tableau est suivant. C'est la table des matières de l'enseignement qu'on donne au petit gris, ou à un séminariste normal, je pense, pendant ses études. Donc on l'enseigne en philosophie pour qu'il puisse connaître l'homme dans toutes ses dimensions. On l'enseigne dans l'écriture, on l'enseigne en doctrine, on le forme également en mystique et en théologie spirituelle. Donc, le tableau récapitule ici, sous forme de table des matières, autrement dit, chaque, non pas chaque ligne, mais chaque croisement de lignes et de colonnes constitue un cours. Par exemple, vous avez par exemple la ligne, les 10 catégories, ouais, cinquième ligne, principalement secondairement, ça fait l'objet d'un cours qui dure un an. C'est toute la ligne qui fait l'objet d'un cours qui dure un an. Vous voyez, ça c'est pour l'apprentissage de notre manière de raisonner. Les sept expériences fondamentales, pour prendre par exemple un exemple aussi, tiens, un peu plus bas alors, les interrogations ouvrant les cinq voies avec les découvertes de l'être premier, les manières d'exister de l'être premier, la causalité de l'être premier vis-à-vis de ses créatures, c'est un cours qui dure 5 ans. Pour prendre un peu plus bas encore dans l'écriture, les 7 demandes de la prière sacerdotale, c'est-à-dire le commentaire de théologie mystique du chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, a duré un an. L'Apocalypse, il y a juste 3 significations, l'Église dans la lutte, les 7 sceaux, les 7 églises, les 7 corrections, les 7 récompenses. Là, c'est un cours qui dure un an aussi. Pour la lecture de l'Apocalypse. Pour la lecture de l'évangile de Saint Jean, évidemment, j'aurais pu rajouter à peu près une quarantaine de lignes, parce que l'évangile de Saint Jean n'est pas encore terminé. On a commencé le cours il y a 8 ans, ou 9 ans. Donc c'est le commentaire théologie mystique de l'évangile de Saint Jean. On est sur la fin en ce moment. Donc oui, vous avez 9 ans de cours. Bon, je pourrais donner d'autres exemples, mais voyez, on pourrait prendre par exemple la philosophie de l'amitié, tout à fait en haut, philosophie de l'amitié, première colonne. L'amitié, alors en prenant au contraire, non plus sous forme de ligne, mais sous forme de colonne. L'amitié face à sa fin, en vue de quoi? Éthique. Ça, c'est un cours qui dure 2 ans. Philosophie de l'art, aussi pareil. Le travail face à la matière, d'où de l'art. Ça, ça dure 2 ans. Les 7 causes spécifiques, cause finale, cause efficiente, etc., c'est un cours qui dure un an. Enfin, vous voyez, donc c'est pour vous montrer quand même. Ah oui, il y a eu un cours tout à fait en bas, les 7 spiritualités dans l'Église catholique. Il y a 7 grandes spiritualités. Vous voyez, tout à fait en bas, enfin presque en bas. Les 7 spiritualités, bon ben vous voyez ça, Saint Jean de la Croix, Saint Ignace, etc. Ça, c'est un cours qui dure un an. Et même, à lui tout seul, Saint Jean de la Croix vif, plein d'amour, c'est un cours de théologie mystique qui a duré 9 mois. Bon, on pourrait continuer comme ça, ça ne vous intéresse pas tellement, mais c'est pour vous montrer que c'est simplement une structure synthétique de l'ensemble de ce qu'on doit voir, de ce qu'on doit connaître. Une espèce de toile d'araignée extraordinaire qui synthétise toute notre connaissance de nous-mêmes au point de vue humain, au point de vue psychologique, au point de vue psychomoteur, la connaissance du corps, la connaissance de la partie de notre intelligence, qui est capable de contempler, la partie de notre intelligence qui est capable de raisonner, la partie de notre intelligence qui est capable de saisir les choses extrêmement pratiques par la prudence, la partie enfin de notre intelligence qui est capable d'être intelligente au sens où on l'entend ordinairement, au sens des idéologies, c'est-à-dire d'avoir des opinions. Alors, faut connaître en nous ces cinq zones d'intelligence, c'est très 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 important. C'est même capital. Ça, c'est pour la santé humaine, naturelle. Donc, vous voyez, connaissance de soi. Connaissance des sept degrés de l'amour. Si vous voyez, ça c'est bien sûr, au point de vue humain, nous avons différents degrés de profondeur dans l'amour, dans l'amitié. Avant d'atteindre l'amitié, il faut qu'on ait crevé six plafonds. Au début que vous rencontrez quelqu'un, c'est nécessairement le premier degré. Donc, ne dites pas que c'est votre ami tant que vous n'avez pas crevé, de manière certaine, les six plafonds. Oui. Ça correspond, et ceci c'est de l'amitié naturelle, n'est-ce pas? C'est de l'amitié naturelle, et il y a une correspondance avec la maturation de la vie spirituelle dans la vie chrétienne ou dans la vie religieuse. Vous voyez? Et c'est ce qui donne notamment ce qu'on entendra peut-être un jour, puisqu'on va aller à Avila, les sept demeures de Sainte Thérèse d'Avila, bien sûr. C'est qu'il y a effectivement une progression dans l'intimité. Les sept demeures d'ailleurs sont sur le tableau. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une relation directe, physique, entre les choses les plus élémentaires, comme le nez, l'oreille, l'œil, et les choses les plus sublimes, comme les sept dons du Saint-Esprit. C'est ce que ce tableau nous apprend. Vous voyez, le fait du nez est lié à la cause finale, l'odorat, le parfum, c'est la structure physique, si nous y sommes extrêmement sensibles, qui prouve une disposition spirituelle à vivre de l'esprit de sagesse. Parce que, par l'odorat, vous comprenez, le chien, avec l'odeur, s'oriente vers une fin, une finalité. Et la fin de tout, si vous voulez, c'est l'amour, hein, bien sûr, qui est là derrière. Et l'amour, en ce sommet, c'est l'esprit de sagesse. Donc, vous voyez, une correspondance avec les yeux, pareil, les yeux, c'est le point de vue de la lumière. Quelqu'un qui a un regard merveilleux, qui aime la lumière, qui jouit de la lumière avec les yeux, physiquement, c'est quelqu'un qui est contemplatif et qui va pouvoir vivre de l'esprit d'intelligence, mais au-delà de ça, il va pouvoir saisir de manière intellectuelle et réelle, contempler de manière réelle, indépendamment de toute grâce, de toute révélation, de toute foi, de toute grâce surnaturelle, de toute Bible et de toute religion, de toute tradition religieuse, il va pouvoir contempler réellement l'être premier qui est en train de créer, tout ce qui existe. Parce que vous savez que entendu, donc intellectuel, sans l'aide d'aucune révélation, ni religion, ni tradition religieuse, la démonstration de l'existence de l'être premier est faite. C'est pas celle de saint Thomas, pour ceux qui connaissent saint Thomas. C'est pas celle de saint Thomas. La démonstration de saint Thomas n'est pas une démonstration. Les cinq voies d'accès de saint Thomas, ouais, je dis ça pour les IPC. Donc, il y a une preuve, disons, une démonstration de l'existence de l'être premier, pas du tout de démonstration de l'existence de Dieu. Saint Thomas, il donne une démonstration de l'existence de Dieu. Alors, donc, c'est forcément théologique, c'est-à-dire, il infiltre à un moment le point de vue de la foi, forcément. Donc, c'est inacceptable au point de vue philosophique. Ouais, alors, les preuves, non, Aristote, on n'a pas retrouvé, donc il faut lire le découverte de l'être premier dans le livre de Père Marie-Dominique Philippe en 4 tomes. Bon. Donc, voyez, C'est quand même très très important de comprendre ça. Or, il y a 5 voies d'accès pour la démonstration de l'existence de Dieu. Enfin, de l'être premier que nous appelons Dieu. Donc vous voyez, c'est très curieux, il y a une correspondance extraordinaire dans toutes les parties de notre structure humaine, parce qu'au fond, la formation c'est pour se connaître l'homme, et à travers l'homme, connaître dans l'homme ce qui peut connaître Dieu, le Créateur, et à travers cette connaissance du Créateur, voir ce qui en nous peut accueillir la grâce. Si c'est la lumière surnaturelle de la foi, ce ne sera pas n'importe où, ce ne sera pas dans nos opinions. Vous voyez ? Voir les lieux de notre cœur où la grâce est accueillie, où est-ce que la charité va pénétrer ? Pas dans n'importe quelle partie de notre cœur, si je puis dire. De même pour l'espérance, de même pour la grâce, où la grâce sera-t-elle reçue ? Donc vous voyez, et ça permet ensuite de voir exactement au point de vue pratique et expérimental comment on éprouve et on vit, par exemple, des dons du Saint-Esprit, des différentes grâces de Dieu, des différents instincts divins qui sont en nous. Je n'ai pas besoin de la grâce, je vous le rappelle, pour connaître Dieu, du moins connaître l'être premier, connaître le Créateur. Je n'ai pas besoin de la grâce. C'est Luther qui dit que le péché originel a tellement bousillé l'homme qu'il est totalement incapable de connaître quoi que ce soit de vrai. La vérité est inaccessible à l'homme à cause du péché originel. De même, l'amour est impossible à l'homme en raison du péché originel. Le péché originel a tout détruit, l'homme n'est que péché. Voilà ce que dit Luther. Donc, la plus grande lucidité, d'après Luther, c'est de réaliser qu'il n'est que péché, totalement incapable d'atteindre quelconque vérité. Le Concile Vatican I, 1870, a dit le contraire, en disant « Celui qui est chrétien et qui affirme que l'intelligence humaine est incapable d'atteindre de manière démonstrative, absolue et réelle, et physique même, sans l'aide de la grâce, sans l'aide de la révélation, sans l'aide de la foi, sans l'aide d'aucune tradition religieuse, mais uniquement par ses forces natives, naturelles, l'être premier, le Créateur, celui-ci a perdu la foi catholique. » Alors donc, si c'est possible, il faut le faire. Il faut apprendre à adorer de manière naturelle. Et il y avait un philosophe qui s'appelle, que j'aime beaucoup, beaucoup rappeler toujours, cette histoire du philosophe, Plotin, que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est extraordinaire, et justement qui est l'image même de cette mystique naturelle. Et Plotin était dans un ermite dans une grotte. Ça c'est merveilleux. C'était 4e siècle, je crois, à peu près. Et après Jésus-Christ, il n'était ni chrétien, ni juif, ni rien du tout. C'était un grec. Il était seulement philosophe, c'est tout. Et il disait bien qu'il était athée, enfin, qu'il était sans religion. Alors il donnait ses cours de philosophie pour expliquer précisément la connaissance de l'homme, la connaissance de, par une espèce de d'intelligence extrêmement raffinée. Arriver à toucher l'un en soi, le bien en soi, qui est à l'origine de tout ce qui existe, de tout ce qui a en lui l'unité. Et alors quand lorsqu'il l'expliquait, bien sûr, puisque chez les Grecs, comme d'ailleurs chez chacun d'entre nous, hein, question de loyauté, c'est quelque chose des Grecs qu'on doit garder. On n'a pas le droit de communiquer quelque chose qu'on n'est pas en train d'expérimenter. Donc si vous parlez de la mystique naturelle, vous ne pouvez pas communiquer une vérité que vous n'êtes pas en train de toucher expérimentalement. Alors bien sûr, comme il atteignait le Créateur, il expliquait la voie d'accès, et toc, il touchait le Créateur, il est tombé en extase. Comme Sainte Bernadette. Allez, dis donc, là, tu cours et tout. Dans sa grotte. Comme un extase. Et l'extase, c'est pas forcément surnaturel. Surnaturel, ça vient de la grâce, le surnaturel. C'est naturel. Alors, du coup, comme il n'arrivait pas à se réveiller, il était dans le ravissement.
ravi par le bien en soi, c'est-à-dire l'être premier, le créateur, complètement ravi, complètement pris, bah, il revenait le lendemain matin pour la suite du cours. C'est intéressant de connaître ça, vous savez, parce que à cause de Luther, on a complètement perdu tout ça. C'est là qu'on voit les ravages de Luther. Que nous aimons beaucoup par ailleurs, nous aimons beaucoup Luther, une charité ardente et très très grande. Donc vous voyez, le tableau qui est là montre bien, en effet, de manière successive, qu'il y a dans l'homme sept expériences fondamentales. Vous pouvez faire sept expériences humaines différentes, totalement différentes l'une de l'autre. Et vous pouvez réfléchir. Et regardez toutes vos expériences, elles se ramènent à ces sept. Si vous trouvez une huitième colonne, nous sommes extrêmement intéressés, écrivez-nous. Et si vous estimez qu'une des deux colonnes, c'est la même chose, elle sera ramène en une, vous nous intéressez de manière sublime, écrivez-nous. Parce que nous cherchons, hein. On cherche la vérité. Alors, si vous avez des lumières absolument géniales, on n'aime pas du tout. Écrivez-nous, nous en supplions. Vous voyez, ah donc, c'est pas du tout pareil d'aimer un autre, l'amitié. D'aimer un autre, ce qu'on disait hier avec la liberté qui fait qu'on est capable d'aimer un autre. Il y a des gens qui sont incapables d'aimer un autre. Incapables. Totalement incapables. Donc, ils ne sont pas libres au point de vue, donc, de la dimension la plus importante de l'homme, qui est l'amour. Ils sont paralysés dès qu'il s'agit d'aimer un autre, de donner, de s'engager, de faire qu'il n'y ait plus que l'autre, qui détermine toute leur vie. Tandis que, évidemment, dans l'art, c'est le contraire. La liberté artistique, c'est le contraire. Je vous le rappelle, c'est tout ce que je porte d'intuition géniale que je veux, qui est source de la détermination de l'autre. Vous voyez ? C'est pour ça que c'est très différent. C'est pour ça que l'éducation n'a rien à voir avec l'amitié, puisque l'éducation, c'est que vous avez une matière très noble, l'enfant, et vous lui donnez la forme la plus sublime qui soit. C'est de l'art, l'éducation. Il ne faut pas dire que l'éducation, c'est de l'amour. L'éducation, c'est de l'art. Mais il faut l'amour quand on fait l'éducation. Mais c'est deux choses totalement différentes. Et il faut être donc très, très, très lucide là-dessus, sinon on fait des horreurs. Parce que si je dis à mon petit bébé, à mon petit enfant, que c'est l'autre, donc il va déterminer tout mon comportement d'éducateur, c'est foutu. Vous voyez ? Tandis que si au contraire je vois que c'est une matière qui n'a pas la forme sublime que je peux lui donner, je peux lui apporter, mais je peux lui apprendre à jouer du violon. Oui, mais après, il sera content. Le bois n'est pas content, vous savez, quand on sculptait, hein, ça saigne. C'est comme le vigneron avec sa vigne. Il coupe les sarments, ça saigne. La taille du père, son sécateur. Vous voyez ? Donc l'amour est une chose. Le travail est autre chose. Vous voyez, alors, si on est structuré intérieurement, nous avons tous chacun sept grands plis. Mais on met en général l'accent sur un grand pli de notre intelligence qui va structurer et qui risque, parce qu'il y a des gens qui sont très artistes, et ils risquent de vivre leur manière de considérer justement la matière, parce qu'ils sont tellement artistes, et puis ils portent tellement ils sont tellement géniaux, qu'ils risquent, lorsqu'ils se trouvent face à quelqu'un qu'ils aiment, de continuer sur leur lancée, et finalement, d'être paralysés du point de vue de l'amitié. Pas pouvoir. Donc c'est pour ça qu'il faut une très grande lucidité sur nous-mêmes, pour discerner en nous ces sept dimensions de l'homme et faire en sorte que nous fassions attention
d'être suffisamment équilibré, suffisamment riche intérieurement, dans toutes ces dimensions, pour pouvoir être un homme. Parce que celui qui n'est pas bien structuré dans toutes ces dimensions n'est pas un homme. Une bête, c'est une bête. Ou alors un monstre, comme vous voulez. Un monstre, encore mieux.
Donc vous voyez, cette dimension. Donc les sept dimensions, c'est l'amitié. Le fait de pouvoir être complètement finalisé par un autre toute ma vie. Et ça va commander la philosophie éthique. Vous voyez, donc la morale, si vous préférez. Parce que la morale, c'est quoi? C'est pour... C'est pas du tout... Faut faire ci, faut faire ça. C'est pas du tout ça. C'est pour pouvoir faire en sorte, être capable de faire que l'autre me détermine complètement. Évidemment que si je suis pas humble, si je n'ai pas acquis par des actes successifs la vertu d'humilité, le fait que c'est l'autre qui détermine toute ma vie, ça va coincer à un moment ou à un autre. De la même manière, si je ne suis pas chaste, par exemple, si j'ai absolument aucune chasteté, bah, bien évident qu'il sera impossible, s'il n'y a aucune pureté du cœur, il sera impossible pour moi d'atteindre dans l'autre la personne. Puisque dans l'impureté, le voile se fait. Bienheureux les cœurs purs, ils verront clair, jusqu'à Dieu. Mais évidemment que quand on est pris complètement par le point de vue charnel, il nous est impossible de pénétrer dans l'autre, dans son intimité, et d'atteindre clairement son âme, son intimité. Donc la chasteté va me permettre précisément de pouvoir pénétrer, ou du moins de faire en sorte que l'intimité de l'autre pénètre en moi et détermine toute mon intimité. Quelqu'un qui n'est pas chaste, c'est impossible. Etc. Donc vous voyez, toute l'éthique, c'est ça. Les vertus, c'est pas pour avoir des vertus, c'est pour être capable d'aimer dans l'amitié. Parce que quelqu'un qui n'a pas maîtrisé sa colère, ses impatiences, hein, bah, court toujours, tu vois, pour l'amitié. C'est très très pénible d'avoir un ami comme ça. On l'aime quand même. Mais vous voyez, ça ne sert pas la relation d'amitié. Ça va plutôt contre. Alors, c'est pour ça donc que toute la morale, c'est ça. C'est bien comprendre qu'on est là pour aimer. Et donc on est finalisé par un autre qui m'attire. Et donc je veux que cet autre qui m'attire soit toute ma vie. Celui qui sera toute ma vie. Moi, je meurs. L'amour et la mort sont une seule chose dans l'amitié. Hein. Moi, je meurs, il n'y a plus que lui. Qui va faire toute ma vie. Mais du coup, moi, je meurs. Bon, mon but, c'est, au fond, c'est s'épanouir dans une plénitude absolue, et la nourriture de sa plénitude, ce sera le don absolu de moi, et donc j'expire dans l'amour, une expiration. L'amour et la mort sont une seule chose dans l'amitié. Du moment qu'il s'épanouit, que l'autre devient de plus en plus lui-même l'autre, dans toute sa plénitude, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je choisis, c'est ça que je veux. C'est ça ma fin, même si je dois en crever. Ouais, c'est ce qu'on dit pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Sinon, il n'y a pas d'amitié. Bon. Alors, le travail, tout à fait autre chose, on en a parlé un peu hier. Face à la matière, je donne une nouvelle forme, je nie la forme qu'a une matière actuellement. C'est un bloc de granit, très très beau, certes, mais je lui ai donné une forme absolument extraordinaire, une Vénus, n'est-ce pas, merveilleuse, dans un coquillage. C'est une très très belle Vénus. C'est vrai, c'est beau, c'est splendide comme forme. Donc, je donne la forme, ma forme, je nie une autre forme. Voilà. Là, il y a toute une intériorité artistique
au fond, ces sept choses, ces sept colonnes correspondent aussi à sept intériorités. Parce que vous voyez, si vous êtes uniquement un travailleur, vous allez avoir une intériorité de travailleur. Et donc, le processus de votre intériorité, ce sera tout ce que vous avez comme intuition géniale. Comment cette intuition géniale que vous portez intérieurement en vous va être conservée, va rejoindre le point de vue de l'intelligence, va rejoindre le point de vue de la volonté, va rejoindre le point de vue du conseil, de la prudence, de la relation à l'extérieur, et va pouvoir atteindre son terme dans l'œuvre. Et donc, vous voyez, c'est tout un cheminement intérieur très différent de celui de l'amitié. Le cheminement de celui de l'amitié, c'est « je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est ça, le cheminement de l'amitié. On l'avait vu avec l'autre jour. Et on est attiré, je choisis comme ma fin. Du coup, je demande conseil pour trouver les meilleurs moyens. Je choisis les meilleurs moyens qui me permettent de faire que ce soit vraiment l'autre. Et enfin, je m'engage et je me donne. Il y a une structure très très extraordinaire dans l'amour qui est totalement différente. Ensuite, colonne suivante, la contemplation. La contemplation, je suis en moi une possibilité de contempler et de connaître, de chercher la vérité, de l'atteindre, de la contempler. Des choses, des réalités invisibles qui me dépassent du point de vue de l'être. Notamment, je suis capable d'atteindre dans l'autre le mystère de l'autre, et le lieu où l'autre me dépasse. La personne de l'autre me dépasse toujours. De même, je peux contempler, évidemment, l'être premier. Ça, c'est sûr. Vous voyez, la dimension de l'esprit en nous, c'est la contemplation. Qui est, évidemment, l'aspect de la vie humaine la plus noble. Plus que l'amour. L'amour va plus loin, si vous voulez, mais c'est moins noble. Tandis que la contemplation, c'est ce qu'il y a de plus noble, c'est ce qu'il y a de plus parfait dans l'homme. Il n'y a rien de plus parfait. C'est pour ça qu'au ciel, ce sera notre béatitude se donnera par la vision béatifique. Ce n'est pas l'incendie, la brûlure de l'amour qui fera notre vision béatifique, c'est la vision béatifique, c'est la lumière de gloire, ce sera une contemplation. Nous contemplerons comme Dieu contemple. En savourant. Parce que c'est la première chose la plus parfaite de l'homme, c'est la contemplation. Et donc, vous voyez, si on doit mettre toutes ses billes quelque part, c'est dans la contemplation. Quatrième colonne, je crois que c'est le point de vue du corps. Nous avons un corps, bien sûr. Vous avez remarqué, c'est la nature. Nous avons un corps. Et ce corps, bien sûr, est extraordinairement harmonisé avec le cosmos. C'est pour ça que l'homme est le roi de l'univers. Et donc, il y a des gens qui vivent intérieurement leur corps, qui connaissent leur corps, qui vivent avec leur corps. C'est évidemment capital. Puisque, pour nous en tout cas, c'est capital. Puisque la religion chrétienne, c'est la religion du corps. Tous les sacrements, c'est le corps. Tous les sacrements, c'est le corps. C'est curieux que Jésus ait choisi que ces sacrements, ça soit par le corps. Et il ne dit pas ceci est ma vie, ceci est ma contemplation, ceci. Non, non, non. Ceci est mon amour pour vous. Non, non, il dit ceci est mon corps. Le sacrement de mariage, bien sûr, c'est par le corps, évident. Et le sacrement, tous les sacrements. Vous voyez, le sacrement de baptême, c'est une incorps. Corporation. Dans le corps du Christ, labouré par ses plaies, brûlé par la résurrection. Donc, tous les sacrements, c'est le corps. Donc, voyez à quel point il est capital de vivre dans son corps et de connaître son corps. Vous voyez, par exemple, pour les femmes, ce qu'on dit toujours, Billings, là, connaître son corps. Vous voyez, la pudeur est une conséquence du péché originel. Il faut connaître son corps, il faut vivre dans son corps. Il faut vivre dans son corps.
faut connaître son corps, faut voir à quel point notre corps est physiquement, réellement, actuellement.
Oui, il faut le toucher, ça.
Il faut le toucher. En contact, j'allais dire, avec tout ce qui existe autour de nous dans l'univers. Notre corps est une partie de l'univers et en même temps, il rassemble à lui tout seul tout l'univers.
C'est génial. Et donc là, vous voyez, vous avez la philosophie de la nature, quelque chose de très, très, très génial. Hein? Absolument génial, bien sûr. Bon. C'est pour ça qu'on va avoir le sens du toucher, vous voyez. Mais non, c'est doux. Et tiens, c'est vrai. Regardez comment, par exemple, le corps de Jésus était tellement, tellement... C'est Saint Bonaventure qui dit que la Sainte Vierge a été la plus heureuse des mères au point de vue naturel, parce que jamais aucune mère n'a eu un enfant qui lui ressemble, qui soit mieux proportionné, mieux adapté à sa mère du point de vue du corps. Parce que bien sûr, elle est la seule origine du corps de Jésus. Par conséquent, le sens du toucher du petit Jésus dans les entrailles de sa mère était parfaitement adapté, parfaitement, pour pouvoir toucher le velours intérieur des entrailles de l'Immaculée. Extraordinaire. Il faut quelquefois faire oraison comme ça, on se transforme en Jésus, on se précipite et on touche le velours intérieur, là. Je ne sais pas si vous voyez là, l'allégresse infinie que par le sens du toucher Jésus, tiens ça, non, en touchant le velours intérieur des entrailles de la Vierge. L'allégresse inouïe, les yeux, la voix. Saint Bonaventure, la voix de la Vierge, parfaitement adoptée à l'oreille du Christ. C'est génial ce que dit Saint Bonaventure, les saints, on est, hein, ils sont pas si belles. Ils connaissent ce que c'est que le corps, vous comprenez? Ils savent ce que c'est que le corps. À travers la voix, connaître l'autre, à travers le son de sa voix. La présence de l'autre. Il est plus ou moins présent selon les vibrations de la voix. Ça, on le sait bien, puisque tout dépend du ton. Tu sais, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. C'est pour ça. Bon, ah, voyez donc le corps, très important. Autre colonne, vous avez la vie. Ah oui, tout à fait autre chose. Il y a des gens qui sont des grands vivants. Extraordinaires. Merveilleux. Extraordinaires. Des grands vivants. Ils aiment bien manger, ils aiment bien boire, mais c'est pas seulement ça. Ils aiment bien être joyeux, vous voyez. C'est le point de vue de la lumière, la vie. Hein? Il y a des gens qui sont lumineux. Vous voyez? Lumineux. Vous voyez, d'ailleurs, si vous voulez, il y a une ligne, en effet, qui explique les qualités correspondantes, vous voyez.
C'est vrai, ça, n'empêche.
Et nous aussi, c'est pareil, parce que vraiment, notre vie éclate, c'est dans les éclatantes vies, on rayonne, on sent bien que ça déborde de nous sous forme de lumière. On sent bien, ça.
Oui, c'est la découverte de l'âme, si vous voulez, hein. La découverte en nous de l'âme. C'est extraordinaire, pouvoir atteindre en nous l'âme. Par la contemplation, la troisième colonne de l'esprit, j'atteins en moi l'être. C'est beaucoup plus profond que l'âme, hein. Donc, en fait, on aurait dû mettre comme colonne avant l'esprit, on aurait dû mettre la vie, bien sûr, on aurait dû mettre le corps, ensuite on aurait dû mettre le travail, ensuite on aurait dû mettre la vie, et ensuite... Vous voyez, on va mettre un ordre différent, c'est sûr. Mais c'est un ordre quand même bon, parce que c'est pour une autre raison que c'est dans cet ordre-là. Vous voyez, donc, ici, la vie... J'en suis à la vie, hein, c'est ça. Et qu'est-ce que je disais exactement? Hein? Ah oui, c'est la découverte en nous de l'âme, oui, c'est ça. C'est pas la découverte de l'être. Alors ici, on va faire un petit cours de philosophie. Donc, expérience. On ne fait pas de philosophie sans l'expérimenter au moment où on le fait. Sinon, ça ne sert à rien. On n'a rien compris. Donc, voyez, découverte en nous de la vie. Découverte en nous de l'être. C'est très différent de découvrir le point de vue de l'être, le point de vue de la vie en nous. Parce qu'après, quand je découvre l'âme, c'est très très profond. Donc je peux très bien penser que je découvre l'être, alors je découvre en fait mon âme. Alors comment? Alors c'est l'être ou c'est l'âme? Alors, par le sens du toucher. Et vous vous touchez. Touchez-vous. 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 Palpez un peu. Et puis fermez les yeux. Et puis vous voyez que ça... Réfléchissez. Essayez de voir ce que votre intelligence saisit à travers le sens du toucher. Elle saisit le sang qui circule, les vibrations, la chaleur, la digestion. Vous digérez le café au lait du matin. Ça digère là-dedans, ça. Le sang qui bouillonne. En même temps, des angoisses, des craintes. En même temps, vous écoutez ce que je vous dis. En même temps, vous avez la foi. En même temps, le cœur qui bat. En même temps, vous avez mal aux pieds. Enfin, c'est extraordinaire. Vous avez beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, point de vue vital. En même temps, vous avez toute une vie organique. Fabuleuse. Et en même temps, vous êtes amoureux. Une petite tristesse. Des amertumes. Tout ça qui s'accumule, qui s'entrecroise, qui grouille, qui grouille, qui grouille. Un grouillement invraisemblable de vie. Un entremêlement, un enchevêtrement invraisemblable. Parce que j'ai différents degrés de vie qui s'entrecroisent. Comme dans un tourbillon extraordinaire. Oui, ça, je touche en moi la vie. Or, je suis seul. Oui, il faut continuer. Hein. C'est sur vous, hein, vous le faites là. Vous m'écoutez, mais vous le faites sur vous. Parce que l'induction de l'âme se fait sur soi-même. Mais vous vous touchez en même temps que il y a une unité extrêmement profonde à travers toute cette diversité invraisemblable, cette expérience. Et vous, nécessairement, s'il y a une diversité avec de telles différences dans le grouillement vital et une unité, il y a forcément quelque chose qui explique et qui existe et qui réalise l'unité dans la diversité. C'est ce qu'on appelle l'âme. Vous avez touché le sang de votre vitalité qui unifie dans un déploiement de feu d'artifice tout votre grouillement vital, c'est l'âme. C'est la source qui fait vivre, qui vous fait vivre dans toutes les dimensions vitales de votre être. Vous avez touché la vie. Attention, deuxième partie. Je passe au paragraphe suivant. Expérience de l'être. Touchez de l'être. Vous vous touchez. Pincez-vous. Non, non, je ne rêve pas. Je suis bien dans un cas. J'existe. J'existe. Parce que dans la vie, vous comprenez, ce que je vous ai expliqué hier, hein, je peux très bien, parce que je suis très... Je viens de faire une bêtise, je viens de faire un péché énorme, qui me culpabilise, qui me culpabilise, qui me culpabilise de merde, à fond, j'entends un bruit, je crois que c'est ma mère qui rentre, et pas du tout. Oui. C'est pas réel. C'est vital, ça, d'avoir eu l'impression que quelqu'un va arriver... Parce que je viens de faire une bêtise. Et pas du tout. C'est qu'une impression. Une impression totalement fausse. Donc, vous voyez, la vie n'a rien à voir avec ce qui est absolument certain et vrai. Je peux avoir la feuille de... C'est ce que dit l'Écriture. Le pécheur est terrorisé par une feuille morte qui tombe au sein. Il croit que c'est un lion qui va le dévorer. Je crois qu'il y a quelque chose dans ce genre-là.
Pardon ?
Qu'est-ce que ?
Ah ben habituellement, c'est l'être qu'on oublie. On oublie toujours l'être. La vie, même Brigitte Bardot, la vie, il faut respecter la vie. Même une bêtise comme Brigitte Bardot est capable de sans arrêt avec le... Bon. C'est la bêtise incarnée, Brigitte Bardot. C'est l'incarnation de la bêtise. Il faut qu'il y ait des icônes comme ça pour comprendre. Oui, oui. C'est vraiment l'icône. Si vous voulez contempler la bêtise, c'est ça. Alors donc, ça se contemple la bêtise, c'est très important. Bon alors donc, pas trop parce qu'on devient ce qu'on contemple. Hein. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux contempler l'intelligence du Verbe éternel pour devenir ce qu'on contemple. Donc vous voyez, donc je me retouche. Ah, et là je vois que j'existe. Vous voyez, par le sens du toucher, vous voyez, c'est beaucoup plus extérieur, c'est pas tellement l'intériorité vitale. Je touche et je vois que mon corps, c'est par mon corps que je vois que j'existe. Je fais un jugement d'existence. J'existe. Et ça, c'est sûr. L'existence et la vie, c'est quand même deux choses totalement différentes. Si je suis intelligent, si vous n'arrivez pas à voir la différence en vous, entre l'existence et la vie, alors c'est que vraiment, vous êtes archi super sous-développé. Au point de vue perspicace. Ah non, c'est élémentaire. C'est le truc élémentaire, ça. C'est le B.A.B.A. C'est le B.A.B.A. du discernement. Parce que si vous dites comment avoir du discernement, bon, numéro un, essayez de voir la différence entre l'être et la vie. Parce que un discernement sur une vocation. Si vous n'êtes pas capable de faire le discernement en vous entre la vie et l'être, vous serez incapable de faire un discernement sur votre vocation. Alors là, il n'y a aucune inquiétude. Oh, je comprends maintenant pourquoi je ne sais pas quelle est ma vocation. Mais pour quelqu'un qui est contemplatif, il n'y a aucun danger. Il voit clair. Oui. Donc vous touchez, vous voyez que vous existez. Ah, j'existe. Tandis que là, il y a de la vie en moi. C'est totalement différent. Hein. Vous voyez quand même. Je touche en moi l'être. Et Dieu, notamment, je dis au passage entre parenthèses, Dieu n'est pas le créateur de ma vie. Dieu ne crée pas ma vie. Dieu n'a jamais créé la vie. Dieu crée l'être. C'est pour ça que quand je dis ma vie, du point de vue de l'être, je dépends totalement de Dieu, il me crée. Je peux faire ce que je veux, même me suicider, je continue d'exister, vous savez. C'est ça le drame des gens qui se suicident pour ne plus exister, justement. Et puis ils s'aperçoivent qu'ils continuent d'exister, et même aussi de vivre. Donc Dieu crée l'être, et ça je dépends totalement de Dieu du point de vue de l'être, je ne peux rien faire. Je ne peux pas supprimer, je ne peux pas diminuer, je ne peux pas augmenter en moi l'être. L'acte de création de Dieu est éternel. Il est indissoluble, je veux dire. Irrémissible, irrenversable. Vous voyez ? Donc je dépends totalement, en ce moment, Dieu est en train de me créer. Je dépends totalement de lui. Je suis suspendu à l'acte créateur de Dieu. Ah, vous voyez, j'adore, c'est souvent quand je vous le dis. Je suis suspendu à l'acte créateur de Dieu, j'existe. Mais la vie, vous voyez, donc je dépends totalement, je suis complètement... Mais du point de vue de la vie, c'est moi. Ça dépend de moi, la vie. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de moi. C'est ce qu'on appelle la liberté. La liberté vue sous le point de vue de la sagesse, c'est ça. Donc vous avez la liberté vue du point de vue artistique, la liberté vue du point de vue de l'amour, la liberté vue du point de vue de la sagesse. La liberté vue du point de vue de la sagesse, c'est que je dépends totalement, en ce moment, l'être, c'est Dieu, je dépends, je suis sous sa dépendance, du point de vue de l'être. Du point de vue de la vie, ça dépend de moi, c'est entre mes mains, j'en fais ce que je veux. Dieu ne crée pas ma vie, pas du tout. Quand vous créez quelque chose, ça dépend totalement de vous. Dieu, si vous voulez, est peut-être plus ou moins indirectement source de vie, mais pas directement. Par la médiation de l'acte créateur, oui. Éventuellement, un peu. Est-ce que vous comprenez ça? C'était évidemment capital. Hein. Sinon, vous ne pouvez pas faire d'acte d'adoration hein, si vous ne saisissez pas en vous le point de vue de l'être. Hein. Alors, en fait, vous touchez, ah, je suis suspendu à créateur de Dieu. Merveilleux. Comprenez, vous avez des tentations, par exemple. Ah, j'ai l'impression d'avoir des doutes, j'y crois pas, etc. Et tout. Touchez-vous, j'existe. Ah, j'existe. Ah, mais oui, bien sûr, j'y pensais pas, parce que les tentations, c'est le point de vue de la vie. Ah, j'existe. Vite, touchez-vous, pincez-vous. Ah, j'existe. Merveilleux, j'existe. Ah, mais oui, en effet, je dépends. Je suis suspendu à créateur de Dieu, là. J'en prends conscience, ah, j'en suis content, et je m'aperçois que la tentation est partie. Parce que je suis passé du point de vue de mon intelligence, de l'ensevelissement dans le point de vue de la vie, au point de vue de l'être. Et pouf, c'est tombé. Alors comment je vais faire pour adorer? Ben, c'est du coup la vie qui est entre mes mains, toute bête avec ses tentations, ses amertumes, ses fadeurs, ses amertumes, tout ça, bon. Eh bien, qui dépend de moi, vous voyez, premier acte, je me touche, je vois que j'existe, ah, mais j'existe, je suis suspendu à la créateur de Dieu, j'en prends conscience, j'en suis heureux, et ce qui dépend de moi, du coup, la vie, je la remets sous la même dépendance, et je la donne. Ça s'appelle un acte d'adoration naturelle. Il faut faire ça souvent, hein. C'est un acte d'hygiène naturelle. C'est l'hygiène naturelle, je dirais, la plus radicale qui soit. Il n'y a pas de danger, hein, que vous ayez des problèmes psychologiques ou que vos enfants aient des problèmes psychologiques, si vous leur apprenez à adorer. Hein. Aucun danger. Quoi qu'on fasse sur eux, quoi qu'on les traumatise, bien, si vous les apprenez à adorer de cette manière, ils sont rectifiés. Et si vous n'êtes pas rectifié, rectifiez-vous vous-même en adorant de cette manière, 7 fois par jour, 7 fois 4 secondes. Ça fait 28 secondes. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais ça vous rectifie de manière spectaculaire. Donc vous voyez comme c'est important le point de vue de la vie, le point de vue de l'être. Donc trouver en soi le point de vue de la vie et de l'âme. Trouver en soi le point de vue de l'âme, c'est évidemment très important pour pouvoir ensuite donner mon âme. Bien sûr, ensuite, mais c'est autre chose de donner son âme. C'est de l'amour. Bon, la coopération. Eh bien, vous avez aussi tout le point de vue politique. Je vis en société. Ici, nous vivons en car. Nous vivons en car, nous vivons ensemble, nous sommes à plusieurs. Donc il y a des moments de tiraillement en moi entre l'amitié, le point de vue que j'ai la responsabilité de tout un car, le point de vue de l'éducation, tout ça. Donc l'éducation c'est l'art, la responsabilité du car c'est la vie sociale, si vous voulez, le point de vue de la vie familiale, le fait qu'on soit solidaire, solidarnosque, c'est tout à fait ça. Et le fait qu'en même temps c'est mon ami. Alors ça, du coup j'ai des problèmes de conscience parce que agir de telle manière, ça va pas avec, vous voyez, alors ça me fait un problème de conscience. Il n'y a pas de problème de conscience à avoir si je suis lucide dessus. Vous voyez, c'est évident. Bon alors, donc, et regardez comme c'est amusant, le sens externe qui correspond à ça, c'est le goût. Il faut avoir du goût. Le goût, le goûter. C'est en même temps du toucher, de l'odorat et de la, c'est de la présence. C'est très très curieux ça, le goût. Les gens qui ont du goût. C'est vrai qu'on ne va pas élire président quelqu'un qui n'a aucun goût. Prenez comme président quelqu'un qui a du goût. N'est-ce pas ? Elle va avoir du goût parce que elle va choisir le chauffeur qu'il faut. Pas un chauffeur complètement con, stupide, moche. Complètement, elle va avoir du goût. Elle va sentir ce qui est en harmonie avec. Vous voyez ? Vous voyez ? Il faut avoir du goût. Le goût, c'est l'harmonie, vous voyez, entre différents. Vous voyez ? Et voyons, harmonie, douceur. La douceur. Harmonie et douceur. Elle cherche l'harmonie. Et la douceur. Donc vous voyez, le fait de vivre en société en famille, la famille, c'est organiser une famille, c'est autre chose. Vous voyez, c'est là-dessus qu'il y a autorité du père dans la famille. L'autorité est au père, est à l'homme, parce que c'est du point de vue de la coopération. Mais dans l'amitié, c'est la femme qui commande. Vous voyez, comme c'est important, parce que si vous ne distinguez pas, vous tombez forcément dans des idéologies dialectiques en disant « ouais, c'est dégueulasse, machin ». Attention, dans l'amour, c'est la femme qui commande, dans l'amitié. Mais du point de vue de la famille, c'est le père. Parce que c'est lui qui assure la réciprocité. Hein.
ce qu'on voyait avec la préparation au mariage. Parce que de temps en temps, je parle avec des en préparation au mariage, avec quelques-uns d'entre vous. Donc, pas tous les jours, on se fait un pchi-pchi sur le mariage. Et ensuite, l'adoration. Ben, l'adoration, je viens de vous le faire, voyez. Je suis capable d'atteindre l'existence de l'être premier, de le toucher, tomber en extase de manière naturelle. Vous voyez, ça, c'est des dimensions naturelles de l'homme. Naturelles. C'est parfaitement naturel. C'est à chaque fois une intériorité orientée différemment. Et donc, si je suis un adorateur, et que, vous voyez, c'est dramatique. Si je suis un adorateur et que je vais structurer mon art, par exemple, en fonction de mon intériorité d'adoration. C'est dramatique, je vais faire des horreurs. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. C'est dramatique. Il y a quelque chose à voir. C'est dramatique, ces espèces d'œuvres d'art qui sont faites par des gens qui sont très 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 religieux. Hein, ils veulent absolument faire de l'art chrétien. Il n'y a pas d'art chrétien. L'art, c'est humain. Mais on peut baptiser quelque chose qui est bon pour le mettre au service de Dieu. Ça, c'est autre chose. Mais ce qui a été produit de bon n'a rien à voir avec la religion. Rien. Il faut que ce soit bon, c'est tout. Les icônes. Ben les icônes, c'est pas de l'art, c'est de la liturgie. C'est symbolique, hein, les icônes. Oui, bien sûr, d'accord. C'est pas vraiment de l'art. Parce que il y a des canons, il y a des canons, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, ça vient pas de toi.
Et des églises, des cathédrales.
Les églises et les cathédrales, les canons pareils. Tous les portes, vous avez vu qu'il y avait les 24 de l'Apocalypse, les 12, là qu'on a été à Chartreux, les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, les 7 dons du Saint-Esprit, et toujours des canons. Toujours, toujours. C'est... Alors bien sûr, vous pouvez faire plus ou moins grand avec en plaçant, mais il y a des canons. Dans la liturgie, c'est un symbole. C'est symbolique avec des canons, une icône, vous ne faites pas n'importe comment. Vous faites toujours de la même manière et vous représentez. Alors bien sûr, comme vous avez une dextérité, ça ne veut pas dire que vous êtes artiste, qui fait que vous êtes capable d'obéir au canon, ce sera plus ou moins réussi comme icône. Mais c'est au niveau de l'efficacité, ça. C'est pas au niveau de l'art. Bon, alors donc vous avez vu donc les 7 dimensions de l'homme. Les 7 dimensions de l'homme, et alors c'est là que le tableau va devenir intéressant, c'est qu'elles me permettent de toucher en moi le corps, vous voyez, les différents sens du toucher, de la vue, du goût, de la cogitative, du sens commun, etc. Bon, la vue, le nez, et tout le tout. Et à partir du corps, nous remontons. Nous sentons en nous des nostalgies absolument extraordinaires d'absolu. La nostalgie, c'est psychologique. Donc c'est la sensibilité animale, si vous voulez, qui face à notre destinée, on a des nostalgies profondes. On voudrait, par exemple, on a un appel en nous à nous sacrifier, à nous sacrifier, à nous donner, mais en même temps, on a peur de la souffrance. Oui. C'est toutes ces nostalgies qui sont en nous et qui sont très très intéressantes à bien regarder. Justement, si vous voulez voir par la connaissance de vous-même où est-ce que vous êtes plutôt structuré, vous n'avez qu'à regarder les nostalgies. Hein. Vous voyez, c'est la 8e ligne. On a soif de vérité. Hein. Quelqu'un qui a soif de vérité, ouais, c'est quelqu'un qui est très lumineux, qui sera très lumineux, qui cherche la vérité, la soif de lumière. Il voit à quel point son intelligence, sa pureté et sa volonté voudraient aller toujours à l'infini. Parce que c'est le sommet de la vie, ça. Parce que le cœur et l'intelligence vivent. Vous voyez, vous avez d'autres nostalgies, vous avez une soif de bonheur et d'épanouissement. C'est quelqu'un qui... etc. Bon, à partir de ces nostalgies en fait correspondent à des ébranlements profonds qui sont en nous.
et qui viennent du fait que notre être, justement, est limité. Notre être, nous sommes aliénés d'une certaine manière du point de vue de l'être, puisque nous dépendons totalement de Dieu. Et en plus, il nous crée de manière une existence qui est limitée, puisque nous n'avons pas un être infini, notre être n'est pas premier, notre être est participé. Donc il est tout à fait limité. Ces limites dans l'ordre de l'être vont faire que du coup, l'être on touche nos limites. Et ces limites vont provoquer, si vous voulez, un certain nombre d'ébranlements profonds. Là, vous voyez, vous avez l'égoïsme, la mort, le vide. Mais c'est au plan métaphysique. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui se touche et qui dit « je suis, j'existe ». Et puis à ce moment-là, il est pris dans une espèce de vertige, de vide. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est au moment où on fait le jugement d'existence, ça, bien sûr, hein, puisque c'est au niveau de l'être. Hein. Alors, en réalité, descriptivement, ça provoque en vous, psychologiquement, une redondance, voyez. Descriptivement, vous voulez ressentir, voir ce que ça correspond au point de vue de ce que vous ressentez. Et vous touchez le produit de l'être, vous, j'existe. Vous avez l'impression de toucher la mort. Un point de vue psychologique, ça fait des êtres qui sont dans l'insatisfaction. Insatisfaction et folie, vous voyez, donc on a envie de... C'est l'artiste hein, qui est là, bien sûr, hein, c'est la dimension de l'artiste. Au niveau métaphysique, hein, l'artiste... Quand l'artiste se place au plan métaphysique, il devient fou. Et il perçoit une insatisfaction radicale, c'est normal parce que il veut créer. Lui, il veut créer. Et au point de vue de l'être, il est créé. C'est ce que dit Nietzsche. Dieu n'existe pas parce que si Dieu existe, il me crée. S'il me crée, je ne suis pas le créateur. Or, je suis le créateur, donc Dieu n'existe pas. Mais Nietzsche, il est mort, pas du tout comme Plotin. Vous savez comment est mort Plotin, qui lui, au contraire, a un sens métaphysique extraordinaire du créateur. Plotin est mort. Il faut toujours regarder les dernières paroles, toutes dernières paroles des grands penseurs, hein, pour voir ce qui... Plotin est avec ses disciples Damasus dans sa grotte, il expire, et en expirant, il dit cette parole, il dit « J'essaye, je tente de conjoindre le divin qui est en moi avec le divin qui est dans l'univers. » Alors un serpent se glissa sous son lit et alla se blottir dans le creux du rocher. C'est Damasus, un de ses élèves, qui dit ça. C'est très joli. Alors par contre, Nietzsche, ça c'est vraiment le contraire, il termine, dernière parole, art, 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 l'art. Et il morfond. En embrassant son cheval. C'est pas moins terrible que Voltaire, qui est mort en bouffant sa mère. Là. Il a pris son pot, il a mis son toc, il est mort comme ça. Mais Voltaire, vous voyez, ce serait une autre chose. Alors donc... C'est très intéressant de voir la fin des gens, c'est très très important. Bon. Je parle des grands penseurs, je ne parle pas au niveau naturel, hein, parce que si vous prenez au niveau surnaturel, ça ne marche pas du tout. Parce que vous avez aussi les gens qui s'offrent comme victimes. Dans le christianisme, il y a des gens qui s'offrent comme victimes. Donc leur fin ne détermine pas leur qualité naturelle. Par exemple Jésus, hein, le fait qu'il soit mort sur la croix, ça ne détermine pas du tout. Le fait que, ce qu'il disait était stupide. Parce que c'était au plan divin. Mais je parle au plan naturel. Donc, vous prenez des gens, si vous voulez, qui ont une bonne santé. Donc, Plotin, vous voyez, c'est vraiment le type qui est extraordinaire. J'essaie de conjoindre le divin qui est en moi avec le divin qui est dans l'univers. C'était génial, ça. C'est génial, quand même.
Le serpent,
c'est le symbole de la sagesse. Qui va se blottir dans le creux du rocher, alors ça c'est encore plus génial. Bon, alors, ce qui montre que la providence divine signe, met la signature à Plotin en disant, bon, 15 sur 20. Il manque 5, la grâce. Bon, alors, donc ensuite vous avez, alors, une fois que vous avez vu tous ces ébranlements profonds. Vous dites, mais pourquoi, comme c'est curieux, ces ébranlements, pourquoi, au fond, soif de bonheur et d'épanouissement, très très bien, très très bien, très très bien, mais, au fond, pourquoi? C'est parce que j'ai soif d'amour, en fait. J'ai soif que l'amour atteigne sa fin, en fait. La soif de bonheur, c'est la soif que l'amour atteigne sa finalité, son épanouissement, vous voyez? C'est le point de vue de la fin, hein, la première colonne, l'amitié. C'est quand le bien est transformé en fin. Et donc, vous dites, mais pourquoi? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que l'amour existe? Vous posez cette question. Vous voyez, vous avez des interrogations, vous vous interrogez, vous essayez de creuser, vous interrogez, vous dites, mais pourquoi ça? Pourquoi l'amour? Pourquoi? Bon, pourquoi? Vous voyez, toutes les interrogations. Alors, je passe sur les compliqués, mais pourquoi est-ce que dans le monde, il y a un ordre si parfait? Pourquoi est-ce que, vous voyez, au point de vue vital, hein, pourquoi est-ce que dans toute cette structure de vie, les pensées, les angoisses, les machins, c'est pourtant parfaitement ordonnancé, dans une harmonie extraordinaire et un ordre parfait? Comment ça fait? D'où ça vient, cet ordre? C'est-à-dire, vous voyez, pourquoi alors? Pourquoi le devenir? Pourquoi est-ce qu'il y a une progression? Pourquoi est-ce que dans la communauté, c'est pas pareil au début, la vie commune? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de tabler sur le temps? Pourquoi le devenir? C'est pour qu'on puisse vivre de la charité. Un seul corps, à plusieurs. Pourquoi le devenir? Bon, etc. Donc vous posez un certain nombre de questions. Et si vous allez jusqu'au bout, vous comprenez bien que tout ça, hein, vous atteignez donc par des voies démonstratives, ça c'est pour ouvrir les voies. Et après, vous avez une démonstration courte qui dure 2 ans, c'est pas pour atteindre en effet l'être premier. Et l'être premier en effet explique ces 7 interrogations, du moins 5 d'entre elles, parce qu'il y a 2 fausses interrogations. Voilà, donc vous atteignez l'être premier. L'être premier, il crée chacune des créatures, et en particulier moi, qui suis un être créé, il me crée. Il existe donc une relation entre le créateur et moi, et chaque créature. Bon, quelles vont être les caractéristiques de cette relation entre le créateur et moi? Étant donné que, en effet, j'ai découvert ces 7 aspects de l'être premier, ça va structurer la relation qu'il a avec moi en tant que créature, et vous avez dans ces 7 manières de l'être premier de communiquer l'être à sa créature, vous allez avoir toutes les notes de la mystique naturelle. Dans la mystique naturelle, vous allez avoir différentes notes, c'est pas toujours la même chose. Bien sûr, c'est extraordinaire la mystique naturelle. On plane, vous savez, enfin, et on est bien dans sa peau en même temps. Or, et c'est là qu'on passe au 2e chapitre du tableau, tout ça c'est naturel, même s'il n'y avait pas la foi, ni la grâce, ni etc., ni la révélation, ni l'expérience donc de la foi, etc. On peut vivre ça sans aucun problème, puisque notre intelligence n'est pas atteinte par le péché originel. Donc je peux expérimenter spirituellement tout ça. Dans une mystique naturelle. Et, or il se trouve que cette relation entre le Créateur et sa créature, dans la Bible, ça s'exprime par des mots hébreux, qu'on traduit en général par alliance ou par grâce. Dieu est en relation avec nous par la grâce, Dieu est en relation avec nous parce qu'il fait alliance avec nous. Mais en réalité, en hébreu, ça correspond à 7 mots différents. Nous, en français, on traduit par 2 seulement. Et en hébreu, 7 mots différents. Et ces 7 mots différents ont une signification bien précise qui correspond exactement à ce qu'on a trouvé en philosophie. Donc la révélation confirme, si vous voulez, mais pour vivre ça en philosophie, il faut 40 ans. Hein. Enfin, il faut une ascèse de toute une vie, disons. Hein. On vit dès le départ, si vous voulez, mais plénièrement, il faut du temps. Parce que dans la Bible nous montre ça, nous révèle ça immédiatement, qu'il y a ces 7 choses-là. Donc non seulement, si vous voulez, par la Bible et par la grâce, nous est donné de vivre d'une mystique naturelle,
Et en même temps, ça nous confirme ce qu'on a découvert en philosophie. Vous voyez, la grâce ne détruit pas la nature. Et la nature est en pleine harmonie avec la grâce. La nature de notre vie spirituelle est en pleine harmonie avec la grâce. Et seulement, c'est d'un seul coup.
C'est-à-dire, rien.
Bon, t'as pas beaucoup de goût, toi. Mais évidemment, c'est le... Bon, alors donc, vous avez, à partir de ce moment-là, tout est structuré dans la Bible avec ce chiffre 7. Ce dont vous parlera, j'espère, Pascal, puisqu'il doit vous faire un petit psy à un moment, enfin, une présentation d'un document pour vous montrer que la Bible, précisément, est structurée par 7. Et en même temps, un document qui établit de manière absolument indubitable que la Bible ne vient pas des hommes et qu'elle vient de Dieu. Découverte extrêmement récente, point de vue démonstration technique. Donc, vous avez tout est sous forme de 7, et ça correspond à nos 7 dimensions de l'homme. C'est pour ça qu'il y a 7 sacrifices dans le Pentateuque, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a l'écriture explicite que, bon, par exemple, Abel a le désir d'offrir l'univers. Donc il y a dans les sacrifices, les offrandes, il y a des finalités différentes. Bon, c'est aussi pour ça qu'il y a 7 demandes dans le Notre Père, bien sûr. C'est également pour ça que vous avez 7 demandes de Jésus dans la prière sacerdotale juste avant Gethsémani. C'est pour ça, etc. C'est pour ça qu'il y a 7 paroles du Christ en croix. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, vous avez toujours 7 coupes, 7 sceaux, 7 colères, 7 tonnerres, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a 7 sacrements, bien sûr. Puisque chaque sacrement est là pour diviniser chacune de nos dimensions humaines. C'est pour ça que j'ai besoin des 7. J'ai absolument besoin des 7 sacrements. Et c'est pour ça aussi que j'ai 7 béatitudes évangéliques, avec une qui se redonde une fois, les persécutés, et 7 qui correspondent parfaitement au don du Saint-Esprit. Bon, ça correspond, oui, c'est ce que je viens de dire, bienheureux les persécutés pour la justice, et heureux êtes-vous, parce qu'on vous outragera, persécutera. Et donc, la 8e correspond à la même que la 4e. Donc, vous voyez, alors, et ça permet, alors vous voyez, c'est ça qui est intéressant, et ça correspond aussi à la vie spirituelle, à la mystique, donc vous voyez, c'est ça. Et les attaques du démon, qu'on trouve enfin, donc les 7 péchés capitaux, les 7 puissances correspondantes dans l'âme, les 7 idéologies contraires. Et les 7 idéologies contraires, c'est très intéressant, parce que chacune des 7 idéologies a pour but de décapiter l'homme dans chacune de ses dimensions. Et lorsqu'on arrive à une époque où les 7 idéologies sont obligatoirement enseignées dans tout l'univers pour imprégner toutes les intelligences, ça veut dire qu'on se trouve face à une situation où on tente de décapiter dans l'intelligence humaine toutes les possibilités pour l'homme d'être humain. C'est ce qu'on appelle la méga-tentation en théologie, prophétisée dans l'Apocalypse par le dragon rouge à 7 têtes, 10 cornes couronnées. Dragon rouge, qui exprime cette espèce de colère extraordinaire, parce que c'est face, c'est face à la théologie que les 7 idéologies se sont dressées, face à une philosophie dite chrétienne. Il n'y a pas de philosophie chrétienne. Quand on dit ça, on provoque l'athéisme, et on engendre l'athéisme, par réaction. Parce qu'il n'existe pas, la philosophie c'est naturel, c'est pas chrétien, c'est humain. Alors du coup, les gens intelligents disent, ce que vous dites c'est faux, vous n'avez pas le droit. Et ils ont raison. Alors du coup, ils engendrent des trucs pour attaquer la philosophie dite chrétienne. Et ces 7 idéologies sont engendrées directement par des gens qui disent ce qu'on appelle la scolastique décadente. N'est-ce pas ? Une espèce de saint Thomas, mais compliqué, métamorphosé dans des trucs invraisemblables, idéologisé. Alors du coup, vous avez ces 7. Eh bien, ces 7 idéologies contraires, vous voyez, c'est par... Donc le dragon rouge, c'est en colère contre la philosophie chrétienne. À 7 têtes, c'est les 7 pensées. Les 7 pensées. Il dégueule, j'allais dire, des blasphèmes pour... Or, le blasphème dans l'écriture, c'est de dire que Dieu n'existe pas. Donc, c'est des pensées athées. Avec 10 cornes pour exprimer la toute-puissance dans toutes les dimensions, mais on emploie c'est l'efficacité au niveau de la puissance. Et la couronne, ça veut dire que c'est absolument obligatoire dans toutes les nations. Donc, vous voyez... Or, il se trouve que du point de vue philosophique, les gens qui sont philosophes, même qui ne sont pas chrétiens, considèrent que, vous voyez, des gens comme Glucksmann, les juifs, considèrent, même tous sont d'accord, considèrent qu'en effet, au point de vue de la pensée humaine, on est arrivé à ce stade-là. La décapitation. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui disent. Enfin, nous, on peut le dire plus facilement grâce à l'Apocalypse, parce qu'on reconnaît immédiatement, mais cette idéologie sont des idéologies qui sont homicides, toutes. Alors c'est très intéressant, chapitre 12, qui prouve qu'on est dans le chapitre 13, parce que cette idéologie, ça fait quand même un certain temps, donc on est rentré dans le chapitre 13, ce que nous verrons à un autre moment de l'Apocalypse. Je vous en parlerai sûrement, ça. Reconnaître ce qui se passe aujourd'hui, c'est chapitre 13. Alors, entre autres, parce qu'il n'y a pas que chapitre 13. Donc, vous voyez, vous avez tout ça. Les sept idéologies ont pour but, donc, de décapiter en nous toute possibilité de vivre humainement. Par conséquent, en conséquence de quoi? Et ça a pour conséquence, si vous voulez, que puisque l'intelligence n'est pas naturelle, elle ne peut plus recevoir la lumière surnaturelle de la foi. Vous recevez le baptême, mais comme votre intelligence n'a plus sa santé naturelle, vous ne pouvez plus avoir la foi. Parce que la lumière surnaturelle de la foi ne va dans les parties de notre intelligence que les parties saines de notre intelligence. Comme les sept idéologies sont complètement bousillées, introverties, torturées, désorientées, décapitées, toutes ces zones, toute cette santé intellectuelle, la foi ne peut pas être agissante. C'est une espèce de persécution finale, très très extraordinaire, et très subtile. Et Saint-Père en est très conscient, hein, parce que quand il l'a dit aux évêques français, il l'a dit explicitement. Voilà, alors vous avez les correspondances dans la vie spirituelle, la vie mystique, et puis aussi justement, puisqu'on se trouve, c'est à cause de ça qu'on défend les droits de l'homme. C'est à cause de ça. Les droits de l'homme, c'est à cause de ça. Les droits de l'homme, c'est parce que les gens sont complètement foutus du point de vue de l'intelligence. Et donc, mais par contre, leur intelligence pratique n'est pas foutue. Vous voyez ? Leur intelligence prudentielle. Comment faire pour faire ceci, comment faire pour faire cela. Et donc, et comme il y a une correspondance entre l'intelligence prudentielle et l'intelligence contemplative, l'Église se met à défendre les droits de l'homme, et c'est sa manière d'enseigner les sept dimensions de l'homme, pour les rétablir. Parce que là-dessus, j'allais dire, les sept idéologies n'ont pas atteint. C'est à cause de ça que le Concile Vatican II insiste tellement sur les sept droits de l'homme à défendre. C'est pour sauver l'homme. C'est pour que l'homme retrouve une santé. Ouais. Voilà. Donc vous avez, bon, on aurait pu rajouter. Au début, j'avais fait un truc avec 250 lignes. Donc, je l'ai ramassé pour avoir l'essentiel. Donc vous avez un peu la structure, vous voyez, le canevas synthétique, vous voyez, c'est pour vous montrer qu'il y a une correspondance extraordinaire, entre tout ce qui est dans l'écriture, tout ce qui est dans le cosmos, toutes mes dimensions à moi, toutes mes puissances, etc. Toutes les paroles de l'écriture, tous les gestes du Christ, toutes les, etc. Et toute la vie mystique, et toute la vie surnaturelle, etc. Il y a une correspondance absolument extraordinaire. Et que l'une épanouit l'autre, l'autre dispose à la... C'est un entrecroisement qui est un enrichissement fabuleux. C'est pour ça qu'il faut lire l'écriture. C'est pour ça qu'il faut être un homme, une femme, plein d'amour. C'est pour ça qu'il faut croire, c'est pour ça qu'il faut prier, c'est pour ça qu'il faut recevoir les dons du Saint-Esprit. Tout ensemble, rien, aucune contradiction, aucune. C'est au contraire une circumcession. Et une compénétration. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.